Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 15 juin et vous écoutez Radio Silence, c'est Flash sur le monde par Élise Mbok. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la peste néolibérale. Voilà, la peste néolibérale, vous allez comprendre pourquoi. Mais peut-être qu'avant, je vais. Mais c'est toujours la même chose, hein, ça va être la même chose. On va relancer. La dernière émission par le Mali. On avait terminé par le Mali, donc on reprend par le Mali. Et je vois que le Premier ministre Chokel, alors le gouvernement a été formé, hein, le Premier ministre Chokel Maïga a annoncé un peu le programme. Ça, je l'ai lu dans RFI, Radio France Internationale. Qu'est-ce qu'il dit, le Premier ministre? D'abord, on rappelle toujours au passage, hein, parce que c'est RFI qui écrit, que la transition aura lieu dans 8 mois. Bon, moi, ça me fait un peu sourire pour les raisons que je vous donnerai plus tard. Alors, monsieur le Premier ministre annonce des assises au l'agenda dans les 8 mois qui nous séparent de la transition, du pouvoir de l'armée au civil, vous savez, la sacro-sainte loi républicaine. Je vais pas dire lol, mais bon. Alors, du coup, il annonce qu'il y aura des assises nationales de la refondation. Bon, rien que ça, je vois pas déjà comment ça pourra se faire dans les 8 mois qui suivent. La refondation, carrément. Ça ressemble un peu à ce que le Rwanda avait fait pour la réconciliation, ce que l'Afrique du Sud aussi a fait. Je sais pas, ça doit. Je pensais pas que c'était aussi grave socialement, enfin que les fractures sociales, comme dirait Jacques Chirac, étaient aussi béantes qu'il faille refonder. Mais alors, si c'est pas les fractures sociales, alors ça doit être refondé carrément à la politique. Et c'est ce qu'il va dire parce qu'il va annoncer une rupture dans la gouvernance. Il va annoncer par la suite. Enfin, il a annoncé la fin de l'impunité, je ne sais pas si c'est ça qui fait partie de la refondation, auquel cas ça ressemblerait beaucoup au dialogue, hein, grand dialogue que le Cameroun a fait ici à la suite de beaucoup de contestations, on va dire comme ça, sur la façon donc l'État gère la question des velléités sécessionnistes de la partie anglophone du Cameroun. Pas toute la partie, mais d'une partie quand même. On va dire, je sais pas si elle est consistante, si elle est minime, mais bon, on regroupe ça dans la crise anglophone parce qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Non, le Premier ministre du Mali annonce une réforme institutionnelle, notamment en matière électorale. On a les mêmes problèmes au Cameroun. Il va réformer la loi électorale. Il veut réformer la charte, revoir la charte des partis politiques, voir dans quelle mesure on peut réviser tout cela de façon constitutionnelle par référendum et créer un organisme indépendant pour gérer les élections. Au Cameroun, on a Elecam, ça n'a rien changé du tout. Mais bon, ce qui n'a pas marché au Cameroun peut marcher au Mali, hein, surtout s'ils annoncent la refondation. Et au troisième point, il annonce la révision, enfin la volonté de revoir un peu l'accord d'Alger, qui bon, vous savez, comme tout accord, hein, il y a des points discordants. Le Premier ministre, il faut quand même rappeler qu'il était sous le gouvernement d'Ibeka, comme on dit, Ibrahim Boubacar Keïta, donc quelqu'un qui coopérait avec la France-Afrique, peut-être contre sa volonté. Et moi, je demande à voir, parce que compte tenu de ce passé-là, je ne sais pas si on lui transmet le pouvoir, lui qui était déjà avec Ibeka, qui était très, très, bon, copain, ami, copain avec la France, je ne sais pas. Bah, les gens changent. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et moi, j'aimerais quand même dire une chose sur tout ce qui s'annonce au Mali. Bon, c'est leur, à la limite, c'est leur souveraineté, on ne s'en mêle pas. Mais l'histoire est un acteur politique parce qu'elle nous apprend des choses. Et le cas de Kadhafi, me vient à l'esprit là directement, parce que figurez-vous que le colonel Goïta, bah, s'il n'avait pas fait ce coup d'État, l'opération Barkhane ne serait pas en train de... Voilà, vous voyez, ça se termine ou ça se réduit, je ne sais pas trop. Donc, quelque part, ce n'est pas quelqu'un qu'on va remplacer comme ça dans 8 mois, comme si... non, c'est un héros. C'est un héros et l'Afrique ne sait pas valoriser ses héros ni leur donner une place. Au contraire, elle les efface, moyennant quoi, c'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire, qui est un acteur politique, moyennant quoi, bah, elle n'a pas de mémoire, et si vous n'avez pas de mémoire, je ne sais pas trop où vous allez, elle n'a pas de dignité, parce que la dignité est assise sur justement des héros. Si vous effacez toujours tout ce qui est héroïque dans votre histoire, je ne vois pas bien ce qui va vous rester hein, pour porter haut votre parole et votre identité. Le colonel Goïta, il a fait quelque chose vraiment de remarquable. Et si le Mali s'en débarrasse comme ça dans 8 mois parce que la République dit que laquelle République est complètement détournée depuis, on va voir par tous les bouts, politiquement, économiquement, financièrement, sociologiquement, bah, intellectuellement, dans l'académie aussi. Donc si c'est comme ça qu'on va remercier le colonel Goïta. Ça sera triste pour l'Afrique parce qu'on a fait la même chose pour Kadhafi. On l'a remercié. Vous savez, Kadhafi, c'est quelqu'un, lorsqu'il était dans l'Union africaine, on le combattait. Alors, il était très combattu par les chefs d'État qui se disputaient. Ils ont instauré. Vous voyez, c'est comme on va voir la République, cette rotation du pouvoir de l'armée au civil. Ça a été la même chose. On a installé une forme de rotation du pouvoir. Les chefs d'État devaient se succéder, s'alterner tous les ans pour la présidence de l'Union africaine. Vraiment, le ridicule ne tue pas les Africains parce que le projet que Kadhafi portait, était un projet qui faisait de lui de facto le président de l'Union africaine à vie. J'ai dit bien à vie compte tenu de la dimension qu'il voulait imprégner à l'Afrique et de l'horizon. Alors après, vous avez eu le président, l'ex-président sud-africain, Jacob Zuma, qui lui disputait une forme de primauté. J'allais dire de couleur noire, probablement au Libyen blanc, qui pourrait être considéré comme de la Ligue arabe. Il lui discutait ça et puis il faisait tout un signe. Mais monsieur Jacob Zuma, il est où aujourd'hui? Aux oubliettes. Voilà comment des personnages de seconde zone viennent disputer la place à des héros. Et finissent par tout anéantir en Afrique. Donc, il faut regarder ces choses-là de très près et ne pas fonctionner comme des automates et apporter une forme de réflexion dans la façon de faire les choses. Bon, ça, c'est pour le Mali. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Si dans 8 mois, ils repassent, ils reviennent en arrière, parce que c'est ce que moi, je crains, dans une forme de laudation, enfin, comme j'ai une forme laudative de élogieuse de la République à passer au civil. La République, c'est vrai, on peut en... Voilà. Bon, je ne suis pas là pour faire un cours. Il faut retenir, comme Montesquieu disait, l'esprit de la loi. Ce n'est pas parce que le pays est dirigé par une armée, que par l'armée, que ça ne va pas marcher. C'est ce qu'on fait, c'est le projet. Quel est le projet avant de savoir si c'est le civil qui le porte ou pas, ou l'armée? Parce que cette distinction entre armée et civil, moi personnellement, elle ne me convainc pas du tout. Mais bon, ce sont les, on va dire comment, les figures obligées, c'est le code républicain qui fait une séparation bon, entre la religion, le code laïque et l'État, puis entre... l'armée et tout. Bon. Ça, c'est pour le Mali. Barkhane n'est plus là. L'opération Barkhane se termine. C'est vraiment rien que ça. C'est une bonne nouvelle. Alors, on arrive au Cameroun. C'est pas très loin. Peut-être La Côte d'Ivoire d'abord, parce que avec la décentralisation sur laquelle on a insisté la dernière fois, le président Ouattara annonce la création de 10, 12 ou 15 districts, j'ai pas bien retenu le nombre, autonomes. On verra bien ce qu'on met dans cette autonomie. Et c'est pas mauvais dans l'esprit, mais maintenant, comme on dit dans la lettre, on verra. Et nous, ici au Cameroun, la décentralisation, on a vu ce que ça donne, mais ce n'est pas tellement la décentralisation qui va nous intéresser ici. Ici, comme j'ai dit, c'est vraiment la peste néolibérale et ses horreurs. Alors, au Cameroun, c'est quoi ce libéralisme? Comment il se traduit? D'abord, le FMI est en pointe là, ces derniers temps où il. Oui, parce que quand même, à un moment donné, il y a tellement de détournements de fonds et de demandes de prêts auprès du FMI que, quelque part, le FMI était déjà quelqu'un, enfin une institution qui venait cautionner toutes ces dérives et tous ces détournements. Donc, elle demande un peu plus de. Pas des comptes, hein, non, c'est un grand mot. Elle demande un peu plus de surveillance, de bonne gouvernance, d'évaluation des entreprises publiques, parce qu'au Cameroun, il y en a beaucoup, des sociétés publiques, et qui consomment un argent fou, à commencer par par les rémunérations et le train de vie de leurs dirigeants et présidents d'essais à exorbitants. Alors, le FMI dit, bah, contre cette malgouvernance et cette absence de surveillance et de stratégie globale de l'État actionnaire, il faut faire quelque chose parce que les sociétés ne sont pas, elles ont une rentabilité proche de zéro et ça c'est compliqué parce que quand on prête l'argent, c'est pas pour que vous restiez à zéro quand même, c'est parce que vous aviez promis de faire quelque chose de plus et lequel plus permettra de rembourser une partie de la dette et l'autre pour vous d'aller un peu plus en avant. C'est ça la philosophie du crédit. Voilà, c'est ça la philosophie du crédit. Alors, aujourd'hui, bon, le FMI a directement mis en cause les deux mastodontes hein, qui gèrent l'économie camerounaise, à savoir la Société nationale des hydrocarbures et la Société nationale d'investissement. La Société nationale d'investissement, c'était un grand truc. Aujourd'hui, on est dans le flou total, on comprend plus c'est quoi exactement sa fonction, notamment par rapport à un autre cabinet qui est au secrétariat général de la présidence. Bon, la Sonara arrive et s'explique. Elle explique que. Non, la Sonara, oh pardon, quel lapsus. La SNH, Société nationale des hydrocarbures. Mais vous comprenez pourquoi j'ai dit la Sonara? C'était une société justement chargée de fournir le pétrole et qui a brûlé récemment et installée précisément là où il y a la sécession. Alors on se dit, mais la SNH, elle vend quoi? Parce que les questions qu'elle importe beaucoup de pétrole, il n'est plus question, puisqu'elle en produit presque plus. Alors on nous dit, la SNH, son directeur est sorti dans investiraucameroun.com pour dire que nous va donner des chiffres d'avant que le site de la Sonara brûle, c'est-à-dire en 2019, en 2017. Il nous parle des transferts vers l'État de 10 milliards de francs CFA en 2020. Bon, ça, si c'est en 2020, c'est quand la Sonara avait déjà brûlé. 8,44 milliards d'impôts, de l'argent pour des taxes diverses. Je vais vous citer les chiffres, ça rimera à rien. Et il parle des transferts directs qu'il fait en termes de caisse noire, c'est-à-dire des dépenses. Il soutient les dépenses de sécurité, de souveraineté de l'État camerounais. Dans la sécurité, il y a précisément le financement du BIR, brigade d'intervention, je ne sais plus quoi, la pré-républicaine ou présidentielle. En fait, ce sont eux qui font la guerre, les soldats, contre brigade d'intervention rapide, je crois. Hein. Ce sont eux qui font la guerre aux Ambazoniens de la partie anglophone. Ils sont environ 5 000 hommes. C'est beaucoup d'argent. Mais ce qui peut déjà leur être opposé ici, c'est quand même que les instructeurs israéliens, tous d'origine, sont devenus des grands pachas de l'immobilier aux États-Unis parce que pour l'argent qu'ils gagnent ici. Je crois que c'est 6 000 dollars l'heure ou 1 000 dollars au moins. Enfin, oui, 1 000 dollars au moins, de toute façon, de l'heure. Alors, moyennant quoi, ils achètent, hein, c'est la spéculation immobilière aux États-Unis. On les a repérés là-bas, on s'est demandé d'où vient l'argent et on s'est rendu compte que c'est le Cameroun qui les payait à prix d'or pour combattre, pour entraîner cette brigade et puis combattre les sécessionnistes. La SNH, Société nationale d'hydrocarbures, annonce aussi qu'elle aide à financer les industries extractives. Ah là, je ne vais pas m'étouffer, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. Les industries extractives au Cameroun. Attendez, j'ai fait une liste. Il ne faut pas que le chef d'État se fâche, ni le gouvernement. Moi, je rapporte que les faits. Et comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Et bien que Jean-Baptiste ait prêché dans le désert, moi je prêche dans le désert de l'histoire. Et puis après, ce prêcha finit parfois par s'incarner, puisque le chef d'État a nommé deux médiateurs pour la crise anglophone, parce que jusqu'à présent, on parle que de la force du BIR, on ne voit pas trop la médiation en jeu. Si on parle donc du rôle de la SNH dans les industries extractives, et j'ai lu toujours dans investir.com, où vont les diamants? Le diamant du Cameroun. Voilà, ils vont en Suisse. Et en Suisse et en Belgique, où ils vont être taillés et polis. C'est-à-dire que c'est toujours ce qu'on avait ici, qu'on a ici, qui est le transfert, l'absence de transfert des technologies et la relation nord-sud que le nord produit, le sud consomme. Donc, on aide à extraire des choses qui vont être finies en termes de produits finis à l'étranger. Donc, tout ça ne nous sort pas de la question de la dépendance et de la question de l'industrialisation impossible au Cameroun, laquelle industrialisation impossible va s'accompagner du chômage qu'on voit. Alors on dit le chômage des jeunes, oui, voilà, c'est pas que les jeunes, c'est tout le monde qui se débrouille comme il peut à la rue. Alors si on énumère l'extraction minière réservée aux étrangers, les armes, vous pouvez pas en produire. Les grandes infrastructures, les routes, les ports, le rail, c'est pas vous. Là, je parle de la construction, là. L'énergie solaire, les panneaux solaires, on n'en fait pas. Il devrait y avoir des usines pour ça. J'énumère les secteurs où l'Afrique, ou le Cameroun en tout cas, et l'Afrique bien sûr, pourrait créer de grandes industries. Pas de téléphonie en termes de société. Ici, c'est Orange ou MTN qui rafle la mise. Et bon, il y a une troisième là, je crois que c'est Nextel qui se débrouille. Vous n'avez pas de possibilité de fabriquer des smartphones. Vous n'avez pas des navires. Vous n'avez pas d'industrie automobile. Impossible. Vous ne pouvez même plus pas faire les pneus parce que point S en plus est venu s'installer tout près de l'EVA au Cameroun. Vous voyez, on en a parlé de l'EVA et du cours qui était fixé à Kuala Lumpur. Peut-être qu'avec la venue de point S ici, le Cameroun pourrait penser aussi à devenir un lieu où on peut fixer le cours de l'EVA. Vous n'avez pas, bon, Carrefour est là, Casino est là, je crois que le fait que point S soit arrivé, vraiment, ça va être, non seulement vous êtes interdit, mais on va venir occuper l'endroit pour vraiment tout faire à votre place, sur place. Vous avez le cas très lancinant alors de Sosucam qui vient d'opérer une coupe franche, Sosucam, société de la sucrerie, ils font du sucre. Moi j'ai cru pendant longtemps, quand vous entendez Sosucam, vous dites c'est la société sucrière du Cameroun, mais ben non, c'est complètement, c'est une propriété française. Et donc Sosucam, c'est la poudre aux yeux pour vous tromper, on a licencié sec. parce qu'on va faire la maximalisation des profits. Ensuite, vous avez le ciment. Le ciment est concerné parce qu'on a une société aussi qui s'appelle Cimancam, qui vraisemblablement n'appartient pas plus que ça à l'État, mais que de nom. Et ce qui est étonnant, c'est que la ministre du Développement urbain annonce la construction de 2000 logements sociaux. Quand vous regardez autour de table, vous voyez la farge, si mentir. Non, c'est hallucinant. Donc, en fait, ce sont eux qui vont faire cela. Nous avons un cimentier ici, si on pense à la régionalisation, enfin, à l'intégration régionale. Nous avons un cimentier ici au Nigeria, Dangote. Pourquoi il n'est pas dans le tour de table de ceux qui vont, des opérateurs qui vont construire les 2000 logements? Et je me souviens, j'étais en Côte d'Ivoire en 85 ou 86, je crois 85, c'est Côte d'Ivoire. Et j'avais vu que Bouygues était en force là-bas, il construisait presque tout là-bas, notamment une grande cité des enseignants. C'est le modèle qu'on va avoir ici. Je dis ça parce que M. Ouattara est très en pointe sur ces questions-là. Et on ne voit pas comment l'Afrique peut s'industrialiser et comment, à partir de là, elle peut sortir du chômage ou avoir une vision stratégique de l'État. L'État, s'il ne se contente que de gérer. Là, quand la SNH fait son rapport, on a quoi? Elle nous dit transfert des dividendes, 10 milliards, paiement d'impôts et de sociétés, 8,44 milliards. Elle nous dit paiement des taxes diverses, 2,16 milliards. Elle nous dit quoi d'autre? Tout ça, c'est sur un résultat de 25 milliards. En 2019, donc la répartition de ces 25 milliards, bon, le reste, y a pas, on n'a pas les salaires, et nous dit ce qu'elle donne au BIR, je n'ai pas retenu le montant, ça c'est pas marqué, et c'est pour les, oui, 109 milliards, c'est qu'elle a donné au BIR, ça c'était en 2017, voyez, alors voilà, le FMI a raison de dire, mais les comptes de 2017 qui se mélangent aux comptes de 2019 et à ceux de 2020, et puis. L'extraction minière, 383 millions. Bon, ici, ça se chiffre en milliards. Et c'est ça qui rend les gens fous. Ça rend les gens fous au point où il y a un jeune, on va arriver à la gifle de Macron, il y a un jeune, un groupe de trois jeunes qui ont posté une vidéo sur Facebook. Où ils disent quand même, mais c'est pas possible. Ils sont justement dans un champ de Bolloré, quelque part, à Pinda, Djembé. Je sais plus comment on dit ça. Moi, je suis au Cameroun, là, et puis je m'embrouille. Là où il y a un maire, je vous ai parlé, Eric Kingué, qui est mort. Pinda, il y a beaucoup de sociétés là-bas qui font de l'EVA, étrangères, bien sûr, qui font des bananes, qui font du cacao. Un peu de tout, un peu de tout, des vastes plantations, des hectares et des hectares voués à l'importation, à l'exportation, pardon, et où les salariés sont payés comme des déchets. Alors il y a un garçon, un jeune, ses amis filment et qui insulte donc le gouvernement par une injure très communiste. Enfin, ici, on parle de ces choses-là. Bon, moi, j'étais dans un taxi une fois. Il y a un taxi. On a insulté l'arrière-train de sa maman. Et il m'a dit, mais vous savez, madame, depuis qu'on insulte l'arrière-train de ma mère, moi, je crois qu'elle peut même plus se lever parce qu'il doit être comme ça. Donc ici, on dit ce truc-là. C'est un peu du désespoir. Oh là là, c'est la misère. Le petit garçon, il dit quoi? Il dit, le jeune, il a quelqu'un qui doit être dans 25 ans par là. 30 max. Il travaille dans ces champs-là, ces nouveaux, hein, les champs de canne à sucre. Et il dit qu'il se lève à 4 heures du matin parce qu'il doit être sur le champ, sur la plantation. C'est la plantation. À 6 heures. Et il travaille de 6 heures à 18 heures. Ils ont droit à une banane. Ça doit être, vous voyez un peu. Et tout ça pour le SMIC qui a été fixé à 32 000 francs CFA, une misère. Et pendant ce temps, il ne comprend pas comment une seule personne, un membre du gouvernement, peut voler 18 milliards de francs à lui tout seul. Ça, donc là, il insulte tout le monde. Et bon, on l'a, évidemment, on les a pris tous les trois. On les a coffrés, ils sont quelque part. Mais la peste néolibérale, c'est ça. On maximise les profits, on effectue des coupes tranches sur les gens. Et puis, bon, il n'y a pas de syndicat. Et c'est peut-être ça aussi qui a valu la gifle à M. Macron. Parce que la France était le seul pays, on se souvient de l'opposition de la France française à la guerre de l'Irak, le seul pays encore qui permettait à ce néolibéralisme, à cette peste de ralentir. Mais alors quand la France démissionne, c'est spectaculaire. Et au fond du fond, il y a un grand intellectuel, le professeur Noam Chomsky, professeur émérite, hein, quelqu'un à son âge, on ne présente plus, du Massachusetts Institute of Technology. C'est un linguiste, mais il dépasse la linguistique. Et il a expliqué très clairement le système en se basant sur le système américain, qui est en quelque sorte le moule de ce néolibéralisme qui imprègne le monde entier. Et il donne des explications qui permettent d'éclairer tout ce qui se passe au Cameroun, au Mali, disons en Afrique, en France, dans le monde entier. Et c'est hallucinant. L'interview du professeur Noam Chomsky, qui a été donc interviewé par le site Jacobin Mag. Ça doit être en anglais, jacobinemag.com, est publié. C'est un article qui date d'après eux hein, de ce début d'année, mais qu'ils ont relancé. Enfin, moi, je l'ai vu, je ne sais pas comment je l'ai reçu, mais je l'ai reçu, soit par Google, soit par Facebook, je ne sais pas, où je consulte tout juste parce que je n'ai pas le droit de publier, et ce n'est pas grave, c'est tant mieux d'ailleurs. Ça me repose un peu. Et M. Chomsky, qui a annoncé très bien la couleur, le titre de l'article dit, en citant donc le professeur Noam Chomsky, moi je l'ai étudié à la fac, donc quand je vois professeur Noam Chomsky, je me lève. Et c'est quelqu'un, il a beau être linguiste, mais il dépasse ce qu'on peut appeler la linguistique, ou plutôt, il déplie vraiment ce que c'est que la linguistique, parce que la linguistique, quand on dit linguistique, on se dit oui, on étudie la langue, on étudie, oui, c'est des spécialistes surtout des langages. Quand on dépasse la langue pour aller étudier les autres langages. En fait, dans la linguistique, il y a la langue, ça c'est pour vous situer, le professeur, on présente toujours l'auteur, il y a la langue, ce que nous parlons, notre parler à tous, avec lequel nous échangeons. Et une fois que vous avez étudié la langue, parce que ce que vous étudiez dans la langue en tant que linguiste, c'est son codage et le décodage, parce que le codage, c'est la construction même de la langue, et le décodage, c'est sa réception. Une fois que vous maîtrisez la technique, vous pouvez la transposer à tous les autres langages. Donc, il y a la langue, ce que nous parlons tous, puis il y a les langages, comme le langage politique, financier, langage académique, langage scientifique, médical, tout ce que vous voulez, informatique. Et ça, c'est un peu des parlers, des dialectes qui ont leur spécificité. Et quand vous étudiez donc la linguistique, vous étudiez donc ces discours-là, discours politiques, discours financiers, etc., qui peuvent être plus ou moins liés à certains moments, et vous êtes dans ce qu'on appelle la communication. Pour aller plus loin, parce qu'on va voir tout ça après. Communiquer est un fait anthropologique. L'homme est un être articulé dans ce sens que il est le seul qui est doué, qui est doté de la fonction de la parole. Les animaux ne parlent pas, même comme ils communiquent. C'est pour ça que l'articulation distingue vraiment l'homme. Et quand le professeur aussi, Paul Watzlawick, hein, à Californie, l'école de Palo Alto, dit L'être humain ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer, c'est comme respirer. La fonction de la respiration est très importante dans l'analyse que fait le professeur Noam Chomsky en tant que linguiste, parce que dans le langage, dans la langue, on respire. Les ethnologues, donc la fonction anthropologique, c'est aussi ce qu'on appelle les ethnologues, c'est les mêmes, ils ont défini trois grands systèmes d'échange dans une société. Donc, dans une société, vous avez l'échange des femmes qui font de la famille. Et c'est ça le siège de la reproduction. Voyez, on prend les femmes d'un côté, avant on allait même carrément les voler quand on n'en avait pas dans sa tribu. Vous avez l'échange du travail et des biens et services qui font de l'économie. Et c'est là où on a la valeur monétaire ou utilitaire quand c'est le troc. Et puis il y a l'échange des paroles qui font de la langue et les langages. On s'exprime. Et là, c'est le siège du pouvoir. C'est le raisonnement. L'argumentation, une grande partie du pouvoir d'ailleurs s'exerce par la parole, hein, vous savez, l'éloquence à Athènes. Donc, on parle pour produire une action ou une activité. Quand je manipule, par exemple, je parle, c'est une activité que je produis. Quand je fais réfléchir ou que je réfléchis, je parle. Je parle aussi pour communiquer avec l'autre, juste pour discuter comme ça. Il fait beau aujourd'hui, tu as vu la télé hier, hein? Et puis on parle pour échanger du savoir. Donc, le linguiste qu'est le professeur Noam Chomsky, voilà, c'est son cadre, c'est le cadre réflexif de la linguistique lorsqu'elle est appliquée à des langages extérieurs à la langue. Du coup, lui, on le présente toujours. Ça, c'est le journal Jacobin Mag. Ce que j'ai dit en première partie, c'est de moi. Hein. Maintenant, le magazine Jacobin Mag vous dit que le professeur Noam Chomsky est entré en scène avec la critique de la guerre du Vietnam, avec un essai très critique, où il défendait un seul principe. Il est de la responsabilité des intellectuels de dire la vérité, rien que la vérité. Et d'exposer les mensonges. Aïe, 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 l'académie a changé, hein, parce que maintenant, la plupart des académiciens ne sont pas là pour dire vraiment la vérité ou d'exposer les mensonges. Bon, faut rester dans l'académie. Donc, le magazine continue, jacobin-mag.com, et il dit que le professeur Chomsky ne s'en est jamais départi de cette maxime-là, contrairement aux autres penseurs de sa génération. Ah voilà, ce sont eux qui précisent. Et que ses écrits mettent à nu les horreurs du néolibéralisme. Ils mettent à nu aussi les injustices d'une guerre interminable, celle du Vietnam, et qui est d'ailleurs devenue le modèle de toutes les guerres qui ont suivi par la suite. Et il met aussi en cause la propagande de la corporation médiatique. Déjà, 1967, c'est ça, c'est ce qu'on a dit au début. Tout ça en 1967, il y avait déjà la critique de la propagande médiatique. Donc, tout cela lui a valu d'être mis sur la liste noire des ennemis du président Richard Nixon et d'être surveillé, alors là, par la CIA de très très près. Donc, il a 92 ans et le magazine précise qu'il demeure une voix essentielle des mouvements anticapitalistes, vous voyez, où on rejoint maintenant la politique, que ses idées ont inspiré. Alors, la question qu'on lui pose, on rentre maintenant dans la politique, pourquoi le Congrès ne met-il pas en place les politiques plébiscitées par le peuple? Vous savez, quand les gens font campagne, ils font des promesses, le peuple dit oui, et une fois qu'ils y sont sur place, ils ne les appliquent plus. La question est pourquoi? Et il répond, bah, la voie à suivre, c'est celle de l'argent. Où est l'argent? Où va l'argent? Qui finance le Congrès? Alors, il rappelle qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet par ceux qui s'intéressent à la relation entre le financement des campagnes et l'électorabilité. Et ils ont démontré qu'il y avait une corrélation directe entre ceux qui financent, enfin, entre le financement et le potentiel électoral, dans ce sens que plus grand est le financement, plus vous avez des chances d'être élu. Alors, ça donne quoi tout ça? Ça donne que, une fois que vous êtes élu, où les congressistes sont élus, dès le premier jour du mandat, ils commencent à passer des coups de fil aux potentiels donneurs pour leur prochaine campagne. Ils sont déjà en campagne et pendant ce temps-là, il y a toute une clique de jeunes lobbyistes financiers, etc., qu'ils embauchent, qui sont dans les cabinets et ces jeunes recrues coulent sous un argent fou qui continue d'ailleurs d'arriver. Hein, c'est de façon. Aux États-Unis, la campagne ne s'interrompt pas, en fait. Toujours on demande de l'argent, les gens envoient l'argent, les lobbyistes beaucoup, et les jeunes recrues croulent sous cet argent, sous cette richesse, un argent fou. Et au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent, sont eux qui écrivent les lois pratiquement, sous la dictée des lobbyistes, parce que les lobbyistes affluent, vous savez, ils ont investi beaucoup, ils attendent un retour. Et les jeunes recrues écrivent les lois, peut-être que le congressiste lit, peut-être qu'il lit de fois en diagonale. Mais il finit par. Il signe parce qu'il sait que les jeunes qu'il a recrutés savent très bien dans quel système on se trouve. Et à la fin, voilà le système. Qu'est-ce que vous voulez en attendre quand vous êtes ce qu'il appelle de la classe moyenne? Ou, oui, c'est la classe moyenne ou de la classe ouvrière. Et c'est pour ça que l'article s'intitule, comme il a dit, que les élites n'ont jamais cessé de mener un combat vicieux de la lutte des classes, en ce sens que ils tiennent à rester au haut de la société, et puis les autres, c'est votre problème. Donc, ils ne sont pas là pour servir le peuple. Ils sont là, et ce peuple qu'ils appellent la working class, la classe moyenne, on va dire, qui comprend la classe ouvrière, c'est ça le problème alors, c'est représente 90% de la population en moyenne. Et les 10%, donc, vivent sur les 90%, selon la maxime néolibérale. Comment en est-on arrivé là? Voilà où nous revenons à l'histoire. Acteur politique. Il dit que le tournant a été pris dans les années 80 par Ronald Reagan, qui a ouvert les vannes du Great Robbery. Voilà, le grand casse. Et c'est à partir de ce moment-là que les paradis fiscaux et les compagnies écrans sont devenus légales. Toute activité qui était illégale auparavant, avant Ronald Reagan. Et Madame Thatcher a appliqué la même chose, bien sûr. Et durant cette période de 80 jusqu'à récemment, le transfert des richesses des 90% vers les 10% est estimé à 47 000 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, ce qui va dans toute forme de financement de campagne, d'enrichissement excessif, de paradis fiscaux, enfin, l'économie a déraillé. Elle a déraillé. Et là, le FMI, lui, il parle de 35 000 milliards sur 40 ans de transfert de fonds des 90%, enfin de transfert des richesses des 90% aux 10%. Donc, il parle de Reagan, 1980. C'est le moment où tout cela dérape, où le néolibéralisme est triomphant. Et pour lui, ça a suivi jusqu'à Clinton et jusqu'à Obama. C'est le même topo. Obama, par exemple, parce qu'entre-temps aussi, on peut rigoler, hein, il dit qu'Obama a été élu avec l'aide des activistes et des unionistes, des syndicalistes. Et une fois qu'il est élu, il leur a dit, bah, rentrez chez vous, merci, c'était très bien. Voilà, donc c'est vraiment le comble du cynisme, mais seulement entre-temps, on a appris que Obama, très financé par le Wall Street, le système et la Big Tech, ou le Big Tech, j'en sais rien, Google avait exigé une clause d'exclusivité pour, je sais pas quoi, avoir un monopole, je sais pas quoi, on lui a garanti, et par Obama. Puis, il arrive à Joe Biden. Président, il dit oui, mais le président Joe Biden, il est trop prévisible, on le lit direct. Donc, ça a été confirmé ces derniers temps au sommet du G7 par l'interview du président Poutine qui dit que, bah, de toute façon, monsieur Joe Biden, lui, c'est un carriériste, hein, donc on sait d'avance ce qui va être dit. On est dans le statu quo. Voilà, le système a ses codes. Comme on disait, codage, décodage du langage. Et bon, M. Biden, il fera comme d'habitude, comme Obama a fait, comme ce qu'on fait depuis 1980. De toute façon, il est là, rappelez Poutine, depuis 40 ans, c'est pas trop. Donc, on voit pas comment ça va changer. Et justement, 40 ans, ça nous ramène aux années 80, où le néolibéralisme prend possession de l'économie mondiale. Entre-temps, bon, il parle de Trump, hein, bon, des termes que moi, j'apprécie pas, parce que c'est des termes qui sont pas du tout scientifiques. Et on voit bien que lui aussi reste un peu imprégné d'une tradition philosophique gauchiste qui va lui permettre d'un côté de regretter ce que la gauche n'a pas fait, de l'autre de brûler un peu la droite, dont je ne vais pas entrer dans la polémique. Sanders alors, il dit, ben Sanders, il a fait une excellente campagne en 2016 et que cette campagne qui consistait d'un côté à faire beaucoup de pédagogie auprès des jeunes en leur démontrant qu'il y a une lutte des classes qui est restée une réalité. Et que le système est corrompu et détourné au profit de quelques-uns. Que rien que ces deux idées ont fait déjà que les jeunes se sont intéressés à lui. Et effectivement, il décline la CMU pour tout le monde. Il décline des idées qui sont socialisme, qu'on appelle là-bas communiste, qui sont intéressantes et surtout qui répondent aux besoins des 90% de la working class. Mais ça marche pas comme ça. Lui, il parle, Sanders, lui, il parle d'une économie qui serait réelle. C'est la même chose, c'est le même topo avec Trump. Trump, il parlait d'une économie réelle. Or, l'économie néolibérale ne s'appuie pas sur l'économie réelle. C'est une économie de la spéculation et de la représentation. Vous voyez les acteurs d'Hollywood et toutes les stars qui vont toujours venir cautionner ce type d'économie néolibérale. Parce que les uns sont dans la représentation et les autres sont dans la spéculation et tout ça va très très bien. Donc 90% des citoyens américains disent qu'ils ne se sentent pas représentés car les politiques publiques ne leur profitent pas, mais aux autres qui s'enrichissent à vue d'œil. Donc, pourquoi? Parce que déjà la destruction du travail, c'est pour ça que j'ai parlé, j'ai rappelé tout à l'heure les bases de la société, le travail, les femmes, la famille, le travail, la valeur et le langage. La destruction du travail a été un facteur majeur dans la création des inégalités. C'est même le facteur majeur, d'après certains chercheurs. Et ce qui est triste, c'est que dans les années 80, 90, c'était même pas possible de faire grève parce qu'il y avait la menace du chantage, de la délocalisation. Vous savez, c'est la grande époque des délocalisations vers le Mexique, par exemple. Et donc, même votre liberté, la liberté des travailleurs, a été happée et sapée par toute cette menace sur l'emploi, sur la délocalisation. Alors, c'est fort de café parce qu'aujourd'hui, les Mexicains, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la même chose. Quand Point S vient ici, les Mexicains n'attendent plus hein, sur place hein, pour entrer dans un dumping social. C'est pas. Non, ils viennent maintenant, ils rentrent aux États-Unis maintenant comme ils veulent. Le professeur dit, ben, dans un état criminel, ben, les actes criminels sont auto-justifiés, autorisés. Et au passage, quand même, Madame Harris, à qui le président Biden a confié la mission de s'occuper de cette histoire des immigrés mexicains qui rentrent comme ça, est pas là à la frontière. Non, elle n'y va pas. Mais, quelque part, bah, c'est leur problème. Hein. Mais, sauf que le président a annoncé cela en grande pompe, qu'il créait une task force qui va être dirigée par Madame sa vice-présidente, et puis elle est jamais allée. Et par contre, elle trouve le temps d'aller défiler à la Gay Pride à Washington. Et elle est habillée t-shirt blanc, marqué Love, Love, Love partout, et puis une veste rose bonbon. Vous voyez tous les signes du sexe à pile sont là, puisqu'on parle de la linguistique et des signes et des symboles. Le rose bonbon, vous voyez bien à quoi ça fait allusion, à toute la symbolique sexuelle qu'il y a là, mon bébé et tout. Et puis, vraiment, une vice-présidente qui va défiler à la Gay Pride, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, C'est ce qu'on a rappelé aussi, qu'il faut donc rappeler les fondements de la société, c'est l'échange des femmes. Et c'est pas, et quand on dit l'échange des femmes, c'est les femmes qui vont vers les hommes. Mais c'est une parenthèse, on passe. Et le professeur se dit aussi, en parlant donc d'argent, que voilà, il fut quelque temps, je crois, avant la campagne, on avait le programme démocrate en ligne. Sur le changement climatique. Maintenant, quand vous retapez, vous y allez, vous allez voir comment donner de l'argent au Parti démocrate. Chaque fois que vous recevez un courrier, vous allez avoir pour fundraising, marché, marché. Bon, donc la question, c'est l'argent. Si donc c'est l'argent, alors c'est là où on termine, hein, le professeur Noam Chomsky dit, ben, quelqu'un, un enseignant de la Harvard School of Law, l'école de droit, a dit que mais tout cela nous vient de la Constitution, hein, et c'est le coup d'État constitutionnel des pères fondateurs, il y a environ 250 ans, qui en est cause. Parce que dans cette Constitution, on a écrit que ceux qui possèdent le pays ont le droit de le gouverner. C'est ce qui est écrit dessus. Or, le mot posséder, a prêté à confusion. Vous savez, vous pouvez interpréter comme vous voulez le mot de posséder. Posséder, d'un côté, ça peut être ceux qui sont le concept de d'autant, ceux qui sont les autochtones, de l'autochtonie, mais contre l'allogénie. Ça a été interprété autrement par l'argent. On s'est dit, celui qui possède, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a la force, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a les armes. Et à partir du moment où vous possédez le pays par ces éléments-là, la force, le pouvoir, les armes, l'argent, vous avez le droit de gouverner. Et c'est ce qui s'applique à la lettre depuis. Donc les autres ont compris, ils cherchent que vous cherchez les armes, le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a des États qui sont contre. Toute législation visant à interdire les armes, vous cherchez l'argent, la force, le pouvoir, les armes, et vous avez tout ça. Mais vous, c'est vous que vous avez le droit de gouverner, c'est vous, c'est à vous qu'incombe ce droit-là. Bon, il dit de passer, le professeur dit de ne pas se décourager parce qu'il faut continuer à lutter contre le système, il n'y en a pas d'autre. Donc, soit vous laissez, vous démissionnez et ça va être pire. Et malgré tout, il y a eu des avancées. Donc, il faut continuer à lutter contre cela. Et c'est ainsi qu'on va finir. Moi, j'avais écrit quelque part que la démocratie n'était pas achevée. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Continuez à lutter. Ne vous découragez pas devant la pression néolibérale. Après, bon, un seul mot de Trump pour finir son analyse. Et il dit que l'électorat de Trump est constitué, pour ceux que ça intéresse, hein, des évangélistes pro-life, forcément, des suprémacistes dont on dit qu'ils vivent dans les bourgs. Vous savez, il y a eu des analystes, des suprémacistes, il n'y en a pas que chez Trump, ça c'est déjà très péjoratif. Il y a beaucoup de démocrates qui sont super racistes, mais qui le cachent, c'est tout. Et d'ailleurs, Black Lives Matter, qui est un groupe financé par les démocrates pour se donner bonne conscience, et notamment par George Soros, on s'en a pris des belles, on a appris que l'une d'elles, l'une des fondatrices de Black Lives Matter, ouais, parce que c'est Black Lives, pluriel, était marié à un blanc, oh, oh là là, qui se cache derrière, et qui est peut-être probablement le cerveau. Et une autre s'est enrichie de façon spectaculaire en si peu de temps. Elle a quatre villas d'enfer. Elle vit dans une, les autres, hein, spéculation immobilière. Donc l'électorat de Trump, des évangélistes pro-life, des suprémacistes dont on dit qu'ils vivent dans les bourgs. En fait, ce n'est pas des suprémacistes, c'est des gens qui revendiquent, qui sont en accord et avec le slogan America First, c'est-à-dire que Trump va ramener les emplois en Amérique, surtout ceux qui sont dans les zones pétrolières comme le Texas, où M. Biden, vous savez, quand il vient, il met fin au projet des pipelines, donc ça fait peur. Donc on s'est dit, mieux vaut, le travail va s'arrêter. Donc Trump, vraiment, il nous propose des choses authentiques. Et ce qu'il ajoute, qui n'a jamais été dit dans les fake news, c'est que l'électorat de Trump, est constitué des professions libérales, moyennes et petites, des petits entrepreneurs, voyez, et qui gagnent entre 100 000 dollars et 200 000 de l'an. Donc, c'est surtout cet électorat-là qui nous ramène à l'économie réelle, qui est intéressant et qui dérange beaucoup les mondialistes, comme on dit, mais bon, j'aime pas trop le mot, les spéculateurs et les 10% d'en haut, où, vous savez, les démocrates, chaque fois qu'il y a ils ont un complexe avec les impôts, ils disent toujours oui, mais il y a des 1% de plus riches ne payent pas l'impôt, ils sont favorisés par les républicains. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'eux, ils font partie, c'est 1% des 10%, donc eux, ils sont dans les 9%, c'est un peu ça, vous voyez la démagogie. Si les plus riches ne payent pas les impôts, non, c'est pas eux, ils sont riches, mais pas trop. Les autres sont vraiment trop riches, il faut qu'ils payent. Mais ce sont ces trop riches-là qui les financent et ce sont leurs amis, vous voyez. Après, on demande à Trump, non, mais il faut le faire payer plus. Et Trump, lui, il en rigole parce que lui, quand même, c'est quand même un entrepreneur qui part sur l'idée que dans un monde idéal où c'est l'économie réelle qui marche, ce sont ces gens-là qui investissent et pour créer de l'emploi. Donc, il n'a pas vraiment baissé les impôts pour les riches, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il a laissé son salaire, hein, 400 000 dollars quand même par mois sur 4 ans, reversé au trésor. Donc, quelque part, il a payé largement les impôts pour les riches, pour les plus riches, comme on dit. Et on lui reconnaît même pas ça, hein, d'ailleurs, parce que j'aimerais bien voir si le président Biden est prêt à laisser un seul euro, enfin un seul dollar au trésor public de son salaire. Donc, on a ce clivage qui va bien durer, économie réelle contre économie de la spéculation et de la représentation, où le néolibéralisme triomphant écrase tout ce qui... Je veux dire, on n'est plus dans le nord-sud seulement. Hein. Tout ce qui était l'esclavage, quelqu'un disait que le salaire, c'est juste un esclavage temporel, si vous arrivez à vous en sortir. Tout ce qu'il y avait dans le nord-sud s'est transféré, comme quelqu'un l'avait dit, j'oublie son nom là, le processus colonial est revenu en France, dans les zones du nord. On a cette séparation entre nord-sud, blanc, suprémaciste blanc-noir, qu'on va retrouver dans les transferts d'argent. Plus pour les actionnaires et moins pour les travailleurs et les employés, qu'on va retrouver entre les héritiers, la noblesse d'État et le peuple, qu'on va retrouver, j'ai retrouvé, je regardais comme ça, une candidate des Insoumis, pour les régionales contre, certainement, contre Valérie Pécresse. Et qui dit une chose très intéressante, que Valérie Pécresse, elle est dans cette économie de la rente tournée vers l'exportation, qu'en France, il y a beaucoup de comme ça, d'activités, d'industries, mais tout ça va à l'étranger. Ça profite très peu au travail. Donc, elle se propose de réformer tout cela de façon à ce que cette logique du transfert des richesses toujours vers les plus grands et le plus fort, cesse. Et j'ai envie de leur dire, tout ça est bien beau, mais la Bible dit, Matthieu 13, chapitre, on dit chapitre, comment on dit? Oh, Matthieu 13, 12, je sais plus comment on dit, car, verset, voilà, oula, Matthieu 13, 12, car on donnera plus à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous voyez, la Bible, des fois on discute, on se dit, oh Dieu, c'est pas Dieu, mais on a des débats sur Jésus, sur Israël, tout ça. Ah oui, au fait, Premier ministre a changé en Israël. Oh là là, c'est une fausse bonne nouvelle parce que celui qui arrive là, ce serait toujours un Ariel Sharon Terre. Troisième version, donc, de toute façon, on ne peut pas les soigner, hein, ils sont comme ça. Donc, alors, ce qui est bien pour Netanyahou, c'est qu'il a reçu une gifle, il a été humilié. Vous savez, quand on vous bat d'un seul point, 59 contre 60, oh, c'est super. Et il méritait cela parce que, voilà, compte tenu, c'est ce que le Le professeur Noam Chomsky avait commencé à dénoncer en 1967 cette façon, hein, de mépriser, enfin de comment on va dire, de fermer les yeux sur ce qu'on doit appeler le génocide, hein, et on défend les génocides, on essaye de trouver des excuses au génocide. Ce que Monsieur Netanyahou a fait en Palestine depuis, c'est du génocide. Mais qui c'est qui va le reconnaître? Bah, personne, on va laisser comme ça. Pendant ce temps-là, on parlait des autres génocides, mais c'est un génocide. Et bon, on donnera à celui qui a et à celui qui n'en a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Amis de Radio Silence, qu'est-ce que moi je vous dis après ce combat, cette lutte des classes qui est permanente et qu'on croyait disparue et qui, enfin, elle disparaît pas, mais elle mute. Elle mute. C'est le néolibéralisme aujourd'hui. Demain, ça sera probablement, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'on va reprendre le changement climatique et le transformer, je ne sais pas, un autre champ de guerre. Bah, c'est à vous de, comme disait quelqu'un, de veiller, 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 veiller. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde. C'était Elise Mbok pour Radio Silence. Je vous dis à bientôt.